Ça prend une bonne dose de courage et de persévérance pour traverser une pandémie.
Ça prend aussi une bonne dose de patience, de résilience, de confiance, d'optimisme, d'humour et d'amour. Une bonne dose de détermination, d'endurance, d'empathie, de motivation, d'ingéniosité et d'espoir.
Mais surtout, ça prend une deuxième dose de vaccin.
Un message du gouvernement du Québec.
Revolution.
The funk.
Revolution.
The funk.
The CKUT 90.3 FM in Montreal.
For your mind and for your hips, this is music and sounds from the mothership. The mothership cassette archives. 25 years of funky revolutions.
Episode 39. We continue with our second part, this time, the Maghreb, slavery, the African continent. Musicians from Algeria and Morocco, living and working in France, known as Gnawa Diffusion. In 2012, we got to speak to the leader, Amazigh Kateb, about the origins of Gnawa music and its encounter with other rhythmic forms.
Dup, 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 dup.
تبعت النجمة تبعت الهوال كيف الرجال اللي ما هينش ليا ما هينش ليا تيمي مونة تيمبوكتو جدودي خلاوني أساس عربي بأفريقيا تيمي مونة تيمبوكتو خلي ودنيكم آية أرواح تبعت الوصايا تيمي مونة تيمبوكتو وسع قربك والبالة قربك والبالة قربك والبالة تيمي مونة تيمبوكتو ونفاوك من الدوار خسارة الخدم ما هي خسارة القمار طهرك مضروب دقة دقة مضروب دقة دقة مضروب دقة دقة بحروف الخنجر عليك الله والعرب قالوا لك شوف الطالب طالب شايب وعايب بيسبي غالب ويضرب تيمي مونة تيمبوكتو تيمي مونة تيمبوكتو تيمي مونة تيمبوكتو تيمي مونة Timmy Mona Timbuktu Timmy Mona Timbuktu Timmy Mona Timbuktu Timmy Mona
C'est un grand plaisir sur les ondes de CKUT 90.3 FM que nous accueillons sur les ondes Amazigh Kateb, leader du groupe Genawa Diffusion. Bienvenue sur les ondes de CKUT.
Merci.
Vous êtes le groupe a cet aspect du Genawa. C'est un aspect assez essentiel du groupe, mais ce n'est pas le seul aspect de ce groupe.
Ouais.
En tant que leader, comment est-ce que vous caractérisez Genawa Diffusion?
Je dirais que c'est un groupe de musique actuelle qui puise son inspiration dans pas mal de musique traditionnelle, essentiellement la musique Gnawa, mais aussi la musique Chabi, essentiellement les musiques du Maghreb, mais aussi parfois les musiques des Caraïbes ou les musiques plus subsahariennes. En gros, si on veut résumer en faisant abstraction des styles, parce qu'on pourrait énumérer les styles qu'on aborde, mais je pense que c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus intéressant. À mon avis, ce qu'il y a de plus intéressant, c'est que justement on travaille autour du thème du chant de liberté et comment il se décline et comment il s'universalise. Et donc voilà, la culture Gnawa, qui est la culture des esclaves d'Afrique du Nord, est un des premiers sons universels mais afro-africains, c'est-à-dire que c'est une fusion entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord. Et de ce point de vue-là, cette culture et cette tradition contient un certain nombre de choses très subversives, un certain nombre de choses aussi très poétiques, très musicales, très portées sur la danse, la transe. Donc il y a tout un mélange d'aspects sociétaux, culturels, religieux, mystiques et autres qui font la force de cette musique. Et c'est un peu le même cheminement en fait quand on analyse par exemple comment la culture Gnawa s'est fait une place au sein de la société maghrébine. on se rend compte que c'est un peu le même cheminement que le négro spirituel aux États-Unis. C'est-à-dire que les Gnawas sont passés par par la mystique des Blancs, par la mystique dominante, pour se faire accepter et pour imposer à leur tour une nouvelle mystique, qui est, elle, plus étendue, puisqu'elle elle fait appel au sein de l'islam et elle chante Allah et Mohammed, mais elle est aussi dans des pratiques animistes, dans le sacrifice, dans le fait de faire couler le sang. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose que nous, on a beaucoup gardé, finalement, en Afrique du Nord. Faire couler le sang, faire le sacrifice, c'est quelque chose qui a du sens chez nous, et y compris chez les populations blanches, pas seulement chez les populations noires. Donc il y a une vraie réminiscence de cette culture au sein de tout le tissu maghrébin, y compris musical, y compris poétique, etc. Donc c'est très vaste. Et puis après, c'est vrai que au-delà et dans le panel de musique occidentale qui ont pu rencontrer la musique gnawa, ben on a des gens comme Jimi Hendrix, comme Jimmy Page, comme un jazzman, là, je sais plus comment il s'appelle. J'ai mangé le nom, un pianiste qui a fait aussi un très beau disque avec les Gnawa.
Randy Weston.
C'est Randy Weston, voilà.
Oui.
Randy Weston. Bon, il y en a plein, hein. Il y a Bill Laswell qui a mixé aussi des albums avec les Gnawa, parce que c'est vraiment, justement, c'est très funky, c'est très reggae. Ça rejoint en tout cas très facilement le funky rythmiquement, très facilement le reggae, très facilement le raga, la salsa. Toutes les musiques, finalement, de l'esclavage arrivent à se rejoindre de manière très très naturelle. En tout cas, par le rythme, elles se rejoignent.
Comme musique de libération, ou qui est ces sentiments qui sort d'une population qui doit parler quelque part avec le langage des maîtres, mais conserver en dessous ce qui lui est propre et les origines en tant que telles. Comment est-ce que vous avez parlé d'éléments subversifs, parce qu'on ne peut pas déclarer haut et libre souvent comme...
La quoi?
On ne peut pas déclarer à haute voix souvent,
oui,
dans ces,
oui,
cultures devant ces cultures dominantes.
Oui.
Donc, est-ce que la thématique de libération pour vous a toujours été claire, ou est-ce qu'elle doit aussi s'exprimer de façon qu'on peut retrouver dans la culture, par exemple, africaine, nord-américaine, ou avec ces jeux de mots détourne un peu le sens, et pour ceux qui ont le clin d'œil, on comprend un peu où on s'en va, ou est-ce que c'est vraiment un art déclaratoire de cette libération, ou déclaratoire d'un espoir de libération pour vous?
Je pense que c'est un peu une question de contexte. Il y a des moments où les esclaves ne pouvaient vraiment pas se permettre d'être déclaratoires, comme vous dites, et donc à ce moment-là, ils ont utilisé des moyens détournés, déjà pour se faire une place. Et la musique a beaucoup servi à ça. On sait par exemple qu'aux États-Unis, les premiers Noirs à avoir pénétré les lieux des Blancs, notamment les cabarets et les salles de concert, ben, ce sont les musiciens Noirs. Donc la musique a aussi servi à ça, a aussi servi à valoriser... d'abord une couleur de peau en tant que telle, presque un peu comme du banania, un peu comme de l'exotisme. Et puis petit à petit, ben, on se rend compte aujourd'hui, par exemple, quand on fait l'analyse de la culture américaine, ben, en tout cas la culture qu'on connaît, c'est-à-dire la funky music, le jazz, le blues, tout ce que l'Amérique a produit depuis qu'elle existe, je crois que la grande majorité des grandes œuvres sont des œuvres afro-américaines. C'est indéniable, la culture afro-américaine a pris une place considérable. Alors, même si les afro-américains eux-mêmes, dans leur chair, ont été brimés, bridés, enchaînés, fouettés, muselés, tout ce que vous voulez, il n'empêche que leur culture, aujourd'hui, c'est celle qui est la plus universelle, c'est celle qui s'exporte le mieux, et c'est celle qui fait aussi l'identité de l'Amérique aujourd'hui. Et c'est en ça que Gnawa Diffusion reprend certaines thématiques de la musique Gnawa, sans reprendre la musique gnawa traditionnelle, justement, c'est parce qu'on veut extrapoler, on veut continuer à chanter la liberté, parce que vous parliez tout à l'heure dans la présentation de l'interview de Printemps Arabe, ben justement, par exemple, le fait de parler d'un printemps arabe, c'est un peu une manière de figer le phénomène révolutionnaire. Le fait de parler de révolution française comme d'une date figée dans l'histoire, ça voudrait dire qu'en France, la révolution est faite et qu'il n'y a plus rien à faire. Or, c'est tout le contraire. La révolution, c'est une façon de penser. C'est pas un événement historique à une date donnée. C'est pas un rendez-vous. C'est quelque chose qui se fait sur le temps et comme tout le reste d'ailleurs, parce qu'une société, ça n'avance pas en un clin d'œil. C'est pas un beau jour comme ça, d'un coup de soleil, on décide d'être démocratique alors que la veille on était On était totalitaire, ça se passe pas comme ça. C'est des années et des années de travail. Et donc les Gnawa ont fait ces années de travail à leur niveau par rapport à leur problématique, qui était plutôt une problématique d'esclavage, une problématique raciale, etc. Nous, aujourd'hui, à notre tour, on a d'autres problématiques. On a l'islamophobie, on a l'arabophobie, on a aussi le fanatisme réel qui est créé par cette qui est créé et encouragé par cette islamophobie. C'est-à-dire qu'on a toute une symphonie aujourd'hui, à la fois médiatique, à la fois politique, à la fois religieuse, mais qui participe de la même œuvre. On dirait que c'est le même chef d'orchestre qui fait jouer un coup les barbus, un coup les pseudo-démocrates, un coup les grosses puissances, un coup on donne un petit rôle au peuple pour donner une valeur aux événements, mais tout le monde sait, en tout cas dans ce qu'on appelle le monde arabe aujourd'hui, tout le monde sait que le revers de la médaille de ce qu'on appelle le printemps arabe, c'est tout simplement un ravalement de façade des anciens régimes, une reprise en main des armées et des systèmes de sécurité et des appareils de sécurité de ces pays-là. C'est juste ça qui s'est passé. Il n'y a pas vraiment de grand changement, même si on a l'impression que, oui, effectivement, il y a eu des élections en Égypte, il y a eu des élections en Tunisie, oui, effectivement, c'est les frères musulmans qui ont gagné, mais je ne crois pas que les systèmes ont changé, les systèmes restent les mêmes. Et justement, c'est ça qu'on a à combattre aujourd'hui. Donc on n'a pas intérêt à marcher dans le jargon médiatique qui voudrait que ça ne se passe qu'au printemps et que ça ne se passe que chez les Arabes. D'ailleurs, quand le fameux printemps arabe s'est passé, ben ça chauffait à Dakar, ça chauffait à Abidjan. Personne n'a voulu faire de rapprochement et pourtant il y en avait des rapprochements à faire. On sait aujourd'hui que si Kadhafi s'est fait écrabouiller, c'est parce qu'il était en train de financer le premier satellite africain avec la Côte d'Ivoire. C'était les deux pays, les deux plus gros actionnaires de Rascom, le premier satellite africain qui devrait être lancé en orbite en 2013 et qui contournait les opérateurs européens et américains. Donc il n'y a pas que le pétrole, il y a beaucoup d'argent là-dessous, il y a énormément d'argent et d'influence là-dessous. Et finalement, ce qui a été fait sur le dos des révoltes, parce qu'en fait on peut pas appeler ça une révolution à partir du moment où elle n'est pas finie. Pour l'instant, on peut pas dire que les choses ont donné leurs résultats, que on peut pas dire que les Tunisiens qui sont tombés, que les Libyens qui sont tombés, que les Égyptiens qui sont tombés sont tombés pour quelque chose qui est en train de naître. C'est pas encore le cas, malheureusement. Il y a encore énormément de travail à faire et il faut surtout pas marcher dans la combine, il faut surtout pas baisser la garde. C'est au contraire maintenant qu'il faut continuer et tant mieux que les gens soient sortis dans la rue, tant mieux qu'ils se soient débarrassés d'une peur qui commençait à devenir vieille et périmée. Mais il s'agit pas de s'endormir, il faut continuer au sein de la société. C'est pas forcément avec des tsunamis de violence ou quoi que ce soit, c'est juste en travaillant sur l'instruction, sur la jeunesse. Voilà, je pense que le vrai espoir c'est les enfants et que il faut pas les abandonner, il faut pas les laisser. C'est pas parce que nous on a eu des échecs qu'on doit les faire subir à nos enfants, quoi. Il faut leur laisser quelque chose, si c'est pas quelque chose de sain, mais au moins quelque chose de dynamique, quelque chose de révolutionnaire.
Est-ce que vous pensez que cette jeunesse, parce que les pays du Maghreb, du pays pour la plupart, les pays de ce monde arabe, ils ont un créneau, une masse de jeunes, dépendant des pays, des chiffres, on peut parler même jusqu'à 60% de la population ayant moins de 25 ans dans certaines... Une grande partie de cette jeunesse qui ne... que ce soit il y a 2 ans ou même aujourd'hui, ne voit pas forcément de relève économique pour eux. Est-ce que cette jeunesse répond à cette philosophie ou cette compréhension que quelque part la révolution c'est une démarche, c'est une culture, c'est un frame of mind et non seulement, comme vous disiez, une date, un événement
Je pense que tout le monde n'en est pas là, malheureusement, parce que quand on est dans la mêlée, on n'est pas forcément très très clairvoyant ni très analytique, ou en tout cas c'est difficile de l'être, parce que quand on est dans l'action, on est dans l'action. C'est comme une fois je discutais avec une femme en Érythrée qui avait participé à des combats, qui avait des traces de balles sur son corps, et je lui disais, mais tu te rends bien compte que la guerre c'est de la merde, et elle me disait, mais toi tu te rends bien compte que moi quand on me tire dessus, je suis obligé de tirer. Donc c'est vraiment deux logiques qui sont complètement différentes. Quand on est sur le terrain, c'est pas comme quand on est en dehors. Donc Donc, bien sûr que je pense qu'il y a une grande partie des gens qui sont sortis, qui se sont investis et qui ont même parfois perdu des proches, ou voire même qui ont eux-mêmes été blessés, etc., dans ces événements. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont compris que la révolution, c'est pas un jour par an et c'est même pas un an par décade. C'est quelque chose qui doit s'installer sur le long terme. Et pour justement qu'il n'y ait pas d'effusion de sang, il faut que les sociétés soient révolutionnaires. Moi, je pense que la pire des choses qui puissent arriver aujourd'hui à nos pays, ce serait une fausse stabilité. C'est-à-dire ce qui est en train d'arriver actuellement. On est en train d'offrir une fausse stabilité à nos peuples pour les faire taire, en gros, on achète la paix sociale. Alors, on l'achète de différentes manières, avec différentes monnaies selon les endroits. Mais on l'achète quand même. La paix sociale n'est pas une paix réelle, c'est une paix fictive qui n'est que la violence latente finalement. Donc à mon avis, au lieu de laisser la violence gonfler jusqu'à ce qu'elle nous éclate encore à la gueule et qu'elle fasse encore des victimes, eh ben au contraire, il faut utiliser toute cette violence pour la transformer en intelligence sociale. Il faut que les gens aillent les uns vers les autres, il faut qu'on construise tout ce que nos dirigeants ne construisent pas, tout ce que ces pouvoirs ne font pas, c'est à nous de le faire. Parce que il est clair aujourd'hui que ces pouvoirs sont nos ennemis. Ce ne sont pas des gens qui travaillent pour le bien social ou pour le bien public ou pour le devenir de leur société. Ils n'en ont rien à faire. Leurs enfants n'étudient pas sur place, leurs maisons ne sont pas sur place, leurs biens les plus colossaux ne sont pas là où ils pompent. Là où ils pompent l'argent. Donc voilà, la plupart ont des maisons en Suisse ou en France, en Espagne, à Monaco et je sais pas où ailleurs. Donc voilà, ils sont dans une logique qui n'est pas une logique de par exemple d'un pouvoir qui se serait trompé et qu'on devrait redresser. Non, ça c'est des gens qui ne se trompent pas, ils savent très bien ce qu'ils font, ils sont en train de nous pomper jusqu'à la dernière goutte et puis après ils vont nous laisser à la merci du premier colon venu comme c'est en train de se passer en Libye. Aujourd'hui en Libye, on parle de perspectives économiques, les gens soi-disant ont voté pour un libéral au lieu de voter pour les frères musulmans, mais ce libéral-là, c'est un vendu des Anglais et des Américains. C'est d'ailleurs la première déclaration qu'il a faite, il a dit « on va faire notre possible pour que notre économie soit compatible avec les Anglais, les Américains et l'Europe ». En gros, ça veut dire « on va se mettre sur le trottoir tranquillement et on va travailler pour vous ». Voilà, c'est ça. Moi, c'est ça que ça veut dire pour moi, et c'est, je pense, le but inavoué de la France, des États-Unis, des Anglais, de vouloir mettre toute cette région sur le trottoir. C'est clair et net. Les richesses et la géostratégie de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, c'est un truc qui est essentiel par rapport au pétrole et par rapport à la domination, par rapport à Israël, par rapport à beaucoup de choses. Donc voilà, on n'est pas naïf. On sait très bien. Même les scientifiques aujourd'hui, quand ils font des enquêtes, quand ils ne trouvent pas les raisons, ils disent « suivez l'argent ». Donc voilà, suivez l'argent, vous trouverez la réponse. Donc voilà quoi.
Quel est le rôle du musicien pour vous, pour la musique, dans cette démarche, dans cette revendication, dans ce travail de la population pour ne pas se faire forcer à travailler le trottoir en tant que tel. Pour vous, le rôle d'un musicien ou plus particulièrement de Ganawa Diffusion, mais comment vous voyez le rôle de peut-être même on peut parler de... Mais on va parler du musicien parce qu'on peut-être on peut mentionner votre père par la suite et les enjeux familiaux. Pour l'instant, comment est-ce que vous voyez le rôle du musicien dans cette démarche de libération et de prise de conscience?
Je pense que le musicien, bon, après, c'est large. On peut parler aussi de l'artiste ou du créateur, de celui qui crée. Parce que la création, c'est une véritable... C'est un mouvement révolutionnaire. Quand on crée, on est en pleine révolution tout le temps. On se remet en question. On essaye de faire mieux que ce qu'on a déjà fait avant, etc. Donc, on est toujours dans quelque chose qui évolue, ou en tout cas on essaye. Après, bien sûr qu'il y a des marchands de soupe qui font même moins bien que ce qu'ils ont fait parce que ça marche. Donc il y a aussi de ça, chez les musiciens, il y a de tout. Mais ce qui est clair, c'est que dans la musique, il y a une véritable énergie de rassemblement, c'est un véritable catalyseur, quoi. C'est pas pour rien que dans les armées, il y a des tambours et qu'il y a des trompettes et qu'il y a des hymnes nationaux et tout ça. La musique, c'est pas rien. C'est pas pour rien, d'ailleurs, que la musique, c'est l'ennemi des intégristes, c'est l'ennemi de tous les fanatismes en général, parce qu'elle arrive à faire concurrence, justement, à toutes ces sornettes. Donc, c'est bien sûr que c'est une arme. c'est aussi et surtout, je pense, un lien social, c'est-à-dire au-delà même du fait de chanter quelque chose d'engagé ou de prendre position à travers la musique, je pense que déjà, rassembler les gens autour d'un événement culturel, qu'il soit musical ou autre, c'est déjà commencer à faire le travail pour qu'une révolution existe. Pourquoi ? Parce que dans une révolution, s'il n'y a pas de lien social, ben, il ne peut pas y avoir de révolution. Si les gens dans une société n'ont pas l'habitude de se côtoyer, d'échanger, d'être d'accord ou pas d'accord, d'aller regarder des belles choses ensemble, de vivre des choses dures ensemble, parce que dans une société, il y a tout, on le sait tous, on vit sur Terre. Et ben, s'il n'y a pas tout ça, il n'y a pas de lien social. Et s'il n'y a pas de lien social, il n'y a pas de révolution. Par exemple, en Algérie, les 15 ans de guerre civile et de massacres et de tueries ont cassé complètement le lien social. En plus, il y a eu des lois des lois d'urgence qui sont venues se greffer sur une situation sanglante qui étaient des lois justement anti-rassemblement. Donc on n'avait même pas le droit même dans les cafés, on avait enlevé les chaises. Donc c'était allé loin quand même. On n'avait plus le droit de se rassembler à plus de 2 ou 3 personnes dans la rue, etc. Dès qu'il y avait un attroupement, il était dispersé. Donc c'est vraiment 15 à 20 ans qui ont complètement dilapidé le tissu social et le lien social. Et du coup, aujourd'hui, en Algérie, ben, on voit un peuple très très politisé, avec un nombre de rébellions et d'insurrections mais incroyable. Par exemple, en 2010, en Algérie, il y a eu entre 10 et 12 000 opérations de maintien de l'ordre importantes. Quand je dis opérations de maintien de l'ordre, ça veut dire qu'ils envoient les CRS avec les matraques et les chiens pour réprimer une foule qui est une foule conséquente, quoi. C'est pas 50 personnes, c'est un village entier, c'est une route coupée, c'est une mairie assiégée, c'est le ras-le-bol des Algériens. Et c'est ce dont je vous parle là, ça se passait en 2010, en même temps que se soulevait la Tunisie. C'est-à-dire pendant toute l'année 2010, l'Algérie était en situation insurrectionnelle. Et pourtant, personne n'a parlé de printemps arabe ou de printemps algérien concernant ce qui se passait en Algérie. Pourquoi ? Parce que le lien social étant brisé, eh ben, il s'est passé plein d'actions sporadiques à différents endroits du territoire, voire partout, mais jamais en même temps, jamais coordonnées, jamais forcément dans le même sens, etc. Et puis en plus, médiatiquement complètement écrasées et pas du tout relayées par les grands médias, en tout cas. Et du coup, ben voilà, c'est passé à l'as. Il n'y a que les journaux algériens qui tous les jours disent, voilà, tel daïra a été assiégé par les habitants de telle commune, tel wilaya a été saccagé parce que le wali a fait une escroquerie, je sais pas quoi. Tous les jours, il y a des affaires comme ça. Je vous dis, 12 000 opérations de maintien de l'ordre dans une année, ça fait entre 30 et 40 interventions par jour. C'est énorme. C'est vraiment une situation de presque quasi guerre civile. C'est pas guerre civile, mais c'est l'insurrection totale. Et donc je pense que effectivement, en voyant ça, ma première envie, c'est de fédérer tous ces gens-là. C'est de faire en sorte qu'ils se reconnaissent dans quelque chose de commun. Et malheureusement, pour l'instant, ce quelque chose de commun, c'est l'Algérie. Et cette Algérie, personne ne s'y reconnaît. On était encore il y a quelques jours en train de fêter les 50 ans de l'indépendance. Je connais pas beaucoup d'Algériens, moi, qui me parlent de 50 ans d'indépendance. Moi, j'entends plutôt parler de 50 ans de galère, de 50 ans de rorba, d'exil, de je ne sais quoi, de clandestinité ou de misère. Mais les 50 ans d'indépendance, ma foi, c'est peut-être dans les livres, quoi. Mais pas dans la réalité. Dans la réalité, c'est un vrai cauchemar.
والبقالة ديال بويا بكلام ابقري والبقالة ديال بويا بكلام ابقري واش تلقوا الغامض بكلام معنوي يشعل الظلام في نور النهار الممنوعة والبقالة ديال بويا بقالة ديال بويا بكلام معنوي بكلام معنوي و
Yeah.
You're listening to CKUT 90.3 FM in Montreal. My name is Khalid, and this is Funky Revolutions. We continue our interview with Amazigh Kateb, leader of the group Gnawa Diffusion, who performed here in Montreal as part of the 26th edition of the Festival International Nuit d'Afrique on Wednesday, the 11th of July, at a packed Metropolis. En Algérie, avec toutes ces interventions dont vous décrivez, il y a des groupes qui veulent soulever leurs droits linguistiques, les droits religieux, les droits ouais. Les revendications sociales. Donc, est-ce que vous trouvez que la musique est capable de rassembler, comme vous dites au nom de l'Algérie dans l'exemple que vous donnez, au même temps en disant, mais regardez ici, on peut trouver la liberté, non seulement en se revendiquant dans un petit espace identitaire en tant que tel. Est-ce que ça va au-delà de cette revendication peut-être identitaire? Parce que l'éparpillement de la population nationale, avec toutes ces différences, est aussi un enjeu très important qu'il faut reconnaître. Donc, pour vous, comment vous voyez cette fédération, comme vous la nommez, en Algérie, par exemple, à titre d'exemple?
Bah, je pense tout simplement qu'il faut laisser les gens revendiquer leur identité et leur langue comme ils le souhaitent, pratiquer leur langue comme ils le souhaitent, ne pas imposer la langue officielle. Bien sûr qu'il faut une langue officielle pour qu'un pays fonctionne, mais on n'est pas obligé de se servir de cette langue officielle pour écraser toutes les autres. Donc il y a bien sûr que c'est possible de vivre dans cet espace en s'acceptant les uns les autres. Moi, personnellement, les gens qui ont envie de vivre leur religion à fond et ne me dérange pas. Par contre, il me dérange à partir du moment où la religion vient empiéter sur mon espace de liberté, parce que je considère que la religion, c'est quelque chose qui doit rester une relation entre l'être humain et son Dieu et pas une relation entre l'être humain et la littérature. Par exemple, je vois pas ce que la religion vient faire dans la littérature ou dans la musique ou dans les films. Je vois pas pourquoi au nom de la religion on interdirait tel truc ou tel truc. Ça, la religion ne sert pas à ça. La religion sert à s'aimer les uns des autres à travers l'adoration d'un dieu et sûrement pas à se massacrer les uns les autres et sûrement pas à faire la police les uns contre les autres et à se surveiller du matin au soir. Donc ceux qui ont compris la religion de cette manière-là, ben forcément qu'ils ne seront jamais d'accord avec le reste de la population puisqu'ils vont dans une logique frontale. Et je pense que ça ne marchera pas parce que je pense pas que les Algériens soient aujourd'hui en attente d'une société complètement muselé, complètement sous le joug de la religion. Je pense que les Algériens ont besoin d'une société dynamique, d'une société moderne, une société qui avance, qui a conscience de d'où elle vient, qui a son identité, qui a sa religion aussi, pourquoi pas, il n'y a aucun problème, qui a ses langues et non pas sa langue, parce que voilà, dans ce pays, il y a des gens qui parlent le kabyle, le chaoui, le chenoui, le tergui, et puis même les arabes dialectales qui se parlent, les différents parlés qui se parlent en Algérie ne se ressemblent pas. Dans l'Oranie, on parle un arabe qui n'est pas du tout l'arabe qu'on parle dans les Aurès, etc. Donc, cette diversité-là, au lieu de la tuer, au contraire, faisons que ça soit une force. Et c'est une véritable force. Je pense d'ailleurs que si on accentue les différents, et non pas les différences, hein, mais si on accentue les différents entre les communautés linguistiques en Algérie, c'est précisément pour maintenir le chaos et pour maintenir le statu quo. Parce que tant qu'on tourne autour du pot, tant qu'on est là à se noyer dans un verre d'eau et chacun revendiquant l'un son arabité, l'autre sa berbérité, l'autre sa démocratie et l'autre son islamité, je sais pas quoi, ben tant qu'on est comme ça, on reste isolé. C'est bien de ça que je parle. Le lien social, il n'est pas que à travers la musique, bien sûr. Hein, le cinéma peut être un lien social, l'école est un lien social, la fac est un lien social, le marché est un lien social. Mais sauf que quand on fout des bombes dans les marchés, quand on met des voitures piégées dans les villes, quand les gens ont peur, quand il y a un barrage tous les 3 kilomètres, eh ben oui, forcément, les gens ont peur les uns des autres et le lien social devient beaucoup plus difficile, voire même il devient suspect. Donc voilà, il y a énormément de choses à réparer en Algérie qui sont même pas d'ordre politique. Je veux dire, quand je parle de lien social, je parle même pas de politique. Je pense que c'est juste que les gens doivent reprendre confiance dans leur société parce que cette société, ben, nous a massacrés, elle nous a ce pays, là, il a fait beaucoup de mal à nos compatriotes. C'est pas un pays facile. Donc les gens, ben, ils sont échaudés, quoi. Ils peuvent pas repartir avec le même romantisme ni avec la même énergie, avec la même bonhomie que les Algériens pouvaient avoir, par exemple, au lendemain de l'indépendance. C'est quand même un peuple qui a fait une collecte de bijoux de famille pour reconstituer le trésor national au lendemain de l'indépendance après 62. Je connais pas, moi, d'autres exemples sur Terre où c'est le peuple qui met ses propres bijoux pour reconstituer le trésor de l'État. Donc voilà, les Algériens, c'était des gens très volontaires. C'était des paysans qui avaient préparé leur terre bien avant l'indépendance. Ils avaient déjà mis en jachère leur terre. Ils avaient préparé tous des programmes sur 10 ans pour exploiter les terres qui avaient été confisquées par les colons. Et à l'indépendance, la première chose que l'État algérien a faite, c'est de confisquer encore une fois ces terres aux gens qui avaient déjà été spoliés de leur terre par les colons. Comment voulez-vous que les gens avancent? Je veux dire, à chaque fois qu'il y a une énergie, on la casse, on la brise. Donc forcément, le lien social est à reconstruire. Et à travers tout ce que vous voulez, à travers une partie de domino ou à travers un concert. Pour moi, tout ça doit exister.
Vous avez votre voix et vous avez le Guimbari. Dans votre propre démarche en tant que aussi leader de Gnawa Diffusion. Le Guimbri comme instrument qui a ses racines mais qui est capable de communiquer avec ses sons, qu'elles soient du reggae ou autre style d'autres régions qui ont connu une histoire d'esclavagisme ou de colonisation. Le Guimbri pour vous, qu'est-ce qu'elle représente et quel est pourquoi elle vous permet d'embrasser cette démarche que vous avez décrit?
Parce que en fait, moi, en tant qu'Africain et en tant qu'Algérien, moi, je le vis dans ma chair, cette histoire-là d'esclavage. Je sais que mes ancêtres, peut-être pas directs, mais en tout cas les arabo-berbères, comme on les appelle, ils ont été esclavagistes. Donc l'esclavage, c'est pas une sorte de couteau ensanglanté que je suis en train d'essuyer sur les Anglais, les Portugais, les Français, les Espagnols. Hein. C'est quelque chose que j'assume aussi pleinement et je peux pas me sentir libre, moi personnellement, en tant qu'Amazir et en tant qu'Algérien, je pourrais jamais me sentir libre si moi je ne redonne pas sa dignité au petit enfant de l'esclave, à l'arrière petit enfant de l'esclave, à celui qui a mon âge aujourd'hui. Celui qui a grandi, ou celui dont les ancêtres ont grandi dans l'aliénation, moi j'ai besoin de lui rendre sa dignité. Parce que tant que moi je ne lui rends pas sa dignité, je ne récupérerai pas la mienne. C'est comme ça. Je ne peux pas aujourd'hui avoir un discours vis-à-vis de l'Occident, ou vis-à-vis de la France, ou vis-à-vis d'Israël, ou de n'importe quel colon sur Terre, si moi-même je ne règle pas ce genre de problème au sein de ma propre histoire. Donc moi, le Guimbri, pour moi, c'est ma façon à moi d'embrasser la négritude et de lui rendre hommage. C'est le nègre qui est en moi qui joue du Guimbri. Et je dis pas ça comme quelqu'un qui est habité par un esprit ou je ne sais quoi, c'est pas du tout ça. Mais c'est que vraiment, l'africanité et la musique Gnawa, c'est ça qui m'a ramené à ma propre culture. Moi, j'ai grandi par exemple à Alger. Et j'ai grandi dans un milieu où il y avait du théâtre, où il y avait de la musique, donc j'avais tout un panel de musique à disposition. Moi, jusqu'à l'âge de 9 ans, 10 ans, c'est-à-dire avant d'aller dans le sud algérien, avant de découvrir la musique Gnawa, je ne supportais pas la musique algérienne. Je ne supportais pas le Chaabi, je ne supportais pas l'Andalou, je trouvais que c'était des musiques de vieux, je les trouvais archaïques. Et en fait, quand je suis allé dans le Sahara et que pour la première fois, j'ai participé à des chants avec des gens, en chantant ma langue, mais sur des mélodies beaucoup plus simples, des mélodies plutôt africaines, et en tapant dans les mains, et en jouant des rythmes simples, et en étant dans une espèce d'ambiance plutôt familiale et chaleureuse qu'une ambiance comme il peut y en avoir dans la musique andalouse ou dans le malouf où c'est très studieux, très docte, parce que c'est des longs poèmes dans une langue limite incompréhensible. Là, c'était tout le contraire. C'était simplifié, c'était quelque chose qui se dansait, qui se chantait facilement. Et donc ça, c'est ça qui m'a ramené à la musique algérienne par la suite. Donc moi, finalement, même en ayant grandi en Algérie, j'ai eu l'accès à ma culture par le Sud. C'est le Sud qui m'a charmé, c'est le Sud qui m'a séduit et qui m'a ramené à moi-même. Et donc, forcément, puisque moi, il m'est arrivé ça, j'ai envie de le partager. C'est ça mon expérience. Mon expérience, elle est par le Sud. Et donc, c'est ça que j'ai envie de communiquer à mon public, aux gens qui écoutent ma musique. J'ai envie de leur faire prendre conscience de cette sensibilité-là, que par le Sud, on arrive à soi-même peut-être mieux que par le Nord. Parce que quand on arrive par le Nord, on arrive avec tout le background, justement, colonialisme, les trois grandes religions, toute cette mythologie, ou en tout cas toute cette histoire, parce que quand je parle de mythologie, je parle plutôt de la mythologie qui se rattache à l'histoire. Mais si on prend toute cette partie de l'histoire et qu'on se dit, ok, ça c'est la vision quand on vient par le nord. Mais quand on vient par le sud, quand on vient par l'Afrique, ben là c'est autre chose. Et puis en plus, c'est vraiment sur les traces de l'esclavage. Donc c'est une reconnaissance de l'histoire aussi. C'est important pour moi de jouer du djembé. Puis en plus, je l'aime cet instrument. C'est-à-dire, j'aurais beau faire des grands discours pour expliquer le pourquoi identitaire, le pourquoi politique, le pourquoi symbolique de l'utilisation de cet instrument. Le véritable pourquoi, c'est que j'aime cet instrument et que j'adore ce son. Et que voilà, c'est déjà ça qui fait que...
DJ Quidrou, micro sonore pour niquer le décor. Yama Loverman Isère de calibre 38, ceci est un raga contre les parapluies. Le matin ouvre les mêmes quand tu veilles. Sinon tu risques de passer à la mise en bouteille. Sinon quelqu'un me ramène à te manger la faille. Parce que c'est rabadab rabadab in a big freak fashion. It's a big big jam with no any solution. Je te donne un exemple sur my situation. I live in the banlieue without the information. I am en Europe et j'ai quitté Africa. J'ai laissé ma brother, ma mother et my father. Et c'est l'immigration exil for all my brother. In a freak fashion. In a freak fashion. I said freak fashion. I said freak fashion. In the jungle. Kapakaikana, Jamaicana, diddy 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 bam. Kapakaikana, Jamaicana, berbam berbam diggy diggy dam. Kapakaikana, Jamaicana, I and I. As the children of the Most High Jah. Rastafari. Transparence d'une société des gaspillages, des très grosses carences. Sur les moquettes, sur les moquettes, sur les moquettes de Babylone. Sur les moquettes de Babylone s'entasse la nourriture pendant que des enfants n'ont pas de nourriture plus là. Dans ce pays, un clivage, une cassure entre la forme et la forme. La forme a plus d'importance qu'au pays de l'abondance. Il y a une drôle d'ambiance. Alors on esthétise, on soigne les apparences tous les jours pour nous fermer en avant des nouvelles défenses. Freak fashion. Freak fashion.
Okay, well, I decided to sit down and write a little something. Geez, I haven't seen my friend in such a long time. Then I said, oh, you know what? You should listen to CKUT 90.3 FM in Montreal. And then you would miss me so much. Should I do another one?
No.
No? Okay.
It takes a good dose of courage and perseverance to get through a pandemic.
True, but it also takes a good dose of patience, resilience, confidence, optimism, humor, and love. Not to mention a dose of determination, endurance, empathy, motivation, hope, and ingenuity.
But above all, it takes a second dose of vaccine.
A message from the Gouvernement du Québec.
You're listening to CKUT 90.3 FM in Montreal. This is Funky Revolutions with myself, Khalid. On vient de terminer en fait deux parties d'un entretien avec Amazigh Kateb, leader du groupe Gnawa Diffusion, en ville dernièrement cette semaine, dans le cadre du Festival international Nuit d'Afrique. On a aussi écouté de la musique, une rétrospective de 20 ans, récemment émise sur l'étiquette ici au Québec, de Nuit de production Nuit d'Afrique. On aurait commencé avec une chanson qu'ils ont aussi reproduite live cette semaine. On parle de la chanson Timimoun Timbuktu, qui parle du retour vers Timbuktu et de cette expérience culturelle et politique envoyée et renvoyée par l'esclavagisme vers les pays du Maghreb, Gnawa prenant naissance, comme il est décrit, dans cette rencontre. On aurait aussi écouté en deuxième lieu Algeria et on aurait fini cette dernière chanson tirée de la même rétrospective Audioglobine 20 ans d'âge Gnawa Diffusion de 1992 à 2012. Une dernière chanson Freak Fashion sur les ondes du peuple 90,3 MF. Peace be with you. We'll be back after these brief messages on CKUT 90.3 FM in Montreal.
18 hammers falling in our lives. There ain't no hammer down a ring like mine.
Yeah! Funky Revolutions for the fattest of the funk and other liberation musics. Saturdays 2 to 4 p.m. Pure funk and the shuffle of people marching in the streets on CKUT 90.3 FM in Montreal.
Everything I do gonna be funky.
Revolution.
This has been the Mothership Cassette Archives, celebrating 25 years of Funky Revolutions. We end episode 39 with one last song, originally released in 1999 on Gnawa Diffusion's album Bab El Wed. This is Gazelle au fond de la nuit.
Le lourd repos des fleurs. J'ai retiré mes vêtements tombés à terre et j'ai dit pour un moment à mon cœur de se taire. Je ne me voyais plus, j'avais perdu mon âge. Nu dans ce monde noir, sans regard, sans image. Dépouillé de moi-même, allégé de mes jours, n'ayant plus souvenir que de toi, mon amour. Au fond de la nuit, au fond de la nuit, au fond de la nuit, vis sous l'île. En secret frémissant qu'aveuglement je touche, mémoire de mes mains, mémoire de ma bouche. Lent parfum retrouvé de cette vie ensemble. Et comme au premier temps qu'à respirer, je tremble. Te voilà ma jacinthe entre mes bras captifs, qui bouge doucement dans le lit quand j'arrive. Comme si tu faisais dans ton rêve ma place, dans ce paysage où Dieu sait ce qui se passe. Au fond de la nuit, au fond de la nuit, au fond de la nuit, au
Je veille et j'ai peur de tomber de toi dans le sommeil. Comme la preuve d'être embrumant le miroir, si fragile, bonheur qu'à peine on peut y croire. J'ai peur de ton silence et pourtant tu respires. Contre moi, je te tiens. Imaginaire empire, je suis auprès de toi le guetteur qui se trouve. À chaque pas qu'il fait de l'écho qui le double. Au fond de la nuit, au fond de la nuit, au fond de la nuit, il se au fond de la nuit. Sur les murs qui souffrent d'une feuille et se meurent d'un murmure. Je vis pour cette plainte à l'heure où tu reposes. Je vis pour cette crainte en moi de toutes choses. Va dire au mon gazelle à ceux du jour futur qu'ici le nom des ce n'est ma signature. Va dire au mon gazelle à ceux du jour futur qu'ici le nom d'Elsa ce n'est ma signature. Au fond de la
CKUT, Montreal, Canada. CKUT.
It's time to take sampling to a whole new level.
Pleasant good afternoon to you, Montreal. Welcome to West Indian Rivers. My name is Howard Carr. And the co-host of the show,
Steve Sanka.
And along with the rest of the crew,
DJ Nicholas. Special guest DJ. With the news,
Brian Amplify.
Welcome to West Indian Rivers.
On CKUT 90.3 FM. People's Station.
Smooth Station. Walk with me.